La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous êtes au bon endroit pour découvrir celles et ceux qui font bouger la France, les talents d'aujourd'hui et de demain. Des femmes, des hommes qui se lancent et qui font bouger les lignes. À mes côtés en studio, Emmanuel Duteil, le chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à tous. Alors on n'a pas d'Apple ou de Facebook made in France, mais il paraît que l'on a quand même des idées en matière de numérique en France. C'est à la une aujourd'hui de cette France bouge. La station F de Paris est le plus gros rassemblement de start-up au monde. Va-t-on y trouver, tiens, là-bas, la future pépite du monde de la tech? En tout cas, avec vous, Elisabeth, et avec vous tous, on va la chercher. Notre invitée d'ici à 14h, Roxane Varza, patronne de la station F.
À la une, en effet, aujourd'hui, Emmanuel, la rentrée des entreprises du numérique. Nous allons remonter quelques années en arrière avec l'entreprise Bull. Est-ce que ça vous dit quelque chose, si Emmanuel Bull?
Une sorte d'espoir déçu.
Mais dans les années 80, il y avait Bull face à IBM. C'était des géants de l'informatique. La marque française survivra grâce à Atos. On y revient dans notre saga du jour et c'est à 13h30.
90 secondes pour convaincre. Chaque jour, une entrepreneur ou un entrepreneur qui se lance vient tenter de vous convaincre et de convaincre notre grande patronne du jour. Soyez au rendez-vous. Aujourd'hui, une marque de chaussettes dépareillées. Oui, vous avez bien entendu et ça n'a rien à voir avec la machine à laver. Rendez-vous 13h40.
Demain, au travail, décryptage sur nos nouvelles façons de travailler. Gros plan sur les bureaux modulables.
Et oui, Elisabeth, nous avons trouvé pour nos auditeurs une entreprise qui propose des bureaux démontables à ses salariés au travail et donc à la maison. C'est très sérieux et très pratique pour le télétravail. On en saura plus à 13h50.
Allez, bienvenue dans La France bouge. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
Europe 1.
Alors, la France est l'un des pays au monde qui crée, paraît-il, le plus de start-up. Chaque année, la plus grosse délégation hors États-Unis au CES de Las Vegas, c'est le plus grand salon au monde dans le secteur de la technologie, est française, là aussi. Et pourtant, on ne voit pas ou presque pas de géants français émerger.
Bonjour Roxane Varza.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la patronne de la station F. Alors la station F, elle est située à Paris, dans le 13e arrondissement. C'est le plus grand campus de start-up au monde. Vous les accompagnez, vous êtes ce que l'on appelle un incubateur de start-up. Vous êtes donc l'une des meilleures expertes, si on peut dire, des start-up en France. Comment les start-up sortent de la crise ?
La crise a été une période compliquée pour tout le monde. Je pense que ça, on peut pas le nier. Après, on voit que les startups qui sont souvent très agiles, donc ça veut dire qu'ils peuvent changer de modèle très facilement, se réinventer presque du jour au lendemain, ont pu aussi parfois même profiter de la situation pour créer des nouveaux business. Donc vraiment, c'est très très mixte. Mais je pense que globalement, l'écosystème de startups se porte très bien.
De façon très concrète, vous aussi, vous avez fermé pendant 2 mois la station F. Chacun a travaillé à la maison pour continuer de trouver ses bonnes idées.
En effet, on était obligés. Donc, Station F a fermé pour la toute première fois depuis notre lancement en 2017. C'était compliqué, mais on a pu basculer pas mal de nos services en ligne. Donc, beaucoup d'événements, de formations qu'on faisait avant sur place à Station F ont été disponibles sur Internet. Et là, aujourd'hui, on commence à repenser en fait notre modèle parce qu'il y a des habitudes qui ne vont pas forcément changer et qui n'ont pas changé avec le déconfinement.
Alors, est-ce que vous voyez beaucoup de profils de start-up qui se sont repositionnés avec la crise? Vous nous avez dit qu'il y en avait certaines qui avaient profité de l'occasion pour se réinventer.
Complètement.
Alors, donnez-nous des exemples, il y en a eu beaucoup.
Complètement. Je pense qu'un super exemple, c'est une start-up qui s'appelle Tarmac Technologies, qui travaille avec l'industrie de voyage aérienne. Donc, qui, avant, aidait à gérer tous les différents prestataires qui interviennent sur un avion en escale. Évidemment, pendant le
pas d'avion.
Et là, avec le déconfinement, commence à créer des nouveaux services qui permettent d'accompagner des compagnies avec tout ce qu'ils doivent mettre en place pour le Covid.
Mmh.
Donc là, presque
pivot
un nouveau marché,
total.
Exactement.
On sait que les crises sont aussi toujours propices justement pour faire émerger de nouvelles idées, parce qu'on dit souvent que la bonne idée, c'est celle qui vient de nous, qui nous concerne et on vient régler une solution. Est-ce que là aussi, à la sortie de cette crise, alors même si on est loin d'en sortir, à la sortie du confinement, on va dire, vous avez plein de start-up qui viennent vous voir en disant tiens, j'ai imaginé ça pendant le confinement, pendant la crise, et j'ai envie de régler tel ou tel problème, Roxane Varza.
En fait, on n'a pas vu vraiment des des modèles complètement différents à se créer, si ce n'est pas des solutions justement pour combattre le Covid. Donc maintenant, il y a des tests et ce genre de choses qu'on n'en avait pas avant. J'ai pas vu des nouveaux marchés émerger, mais on voit des startups qui se réinventent complètement. On a par exemple beaucoup plus d'éducation à distance, beaucoup plus par rapport à la logistique et l'e-commerce, la livraison des médicaments par une compagnie qui s'appelle Facile. Ça a explosé pendant le confinement. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on commence à voir de plus en plus souvent.
Alors le gouvernement, dans le plan de relance, vient de décider des secteurs stratégiques comme le médicament personnalisé, la recherche quantique. Est-ce que l'on doit aussi du coup centrer les projets de start-up sur ces grands projets? Est-ce que vous vous alignez sur ce fameux plan de relance?
Oui, complètement. Je pense que là, il y a pas mal d'opportunités, il y a des ressources pour. Donc, je pense qu'on va voir de plus en plus de start-up se créer autour de vraiment ces points clés. En même temps, je pense que la numérique est plus un moyen, s'applique à tout. Donc, il y aura même des choses qui n'ont pas été encore imaginées qui vont pouvoir se créer.
Justement, sur le plan de relance, quand on le regarde dans le détail, il n'y a pas grand-chose en tant que tel pour le numérique. Il y a pas mal de choses pour la numérisation des TPE, des PME. Mais pour un vrai grand plan pour trouver le Facebook, on aura tout à l'heure Bull, par exemple, qui était né du plan calcul du général de Gaulle dans les années 60. Là, on n'a pas ce plan calcul. Vous le regrettez, Roxane Varza?
Déjà, je ne suis pas du tout d'accord que le numérique n'est pas du tout abordé, parce que je pense que si, je pense que les montants sont même très très élevés. Si on lit sur les blogs dans le monde start-up et techno, on part de 7 milliards, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je pense aussi qu'il ne faut aussi pas oublier que la France, pendant le confinement et pendant le début de la crise, a été un des premiers pays en Europe et les plus généreux à proposer des aides aux startups. Donc ça, il faut
oui,
pas
ignorer.
Il y a
eu un grand plan, au même titre que l'hôtellerie,
exactement,
que la restauration. Et ça a permis d'aider justement les startups.
C'était
une réponse nécessaire.
Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, avec le plan de relance, j'ai vu que l'accent a été mis surtout sur la formation des personnes qui peuvent trouver maintenant des emplois dans le secteur numérique. On parle beaucoup de financement de startups. Moi, je pense que c'est des très bons combats. Donc, c'est pas un plan qui m'a déçu, presque le contraire.
Eh bien, on va continuer à voir ça dans la suite de cette France Bouge, toujours sur Europe 1. Il est 13h17.
Europe 1.
À suivre, les entreprises du numérique font leur entrée. Gros plan sur le spécialiste de la réservation en ligne des restaurants.
Et ça s'appelle Zenchef. Son fondateur est avec nous également dans cette France Bouge sur Europe 1.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
La France Bouge, notre patronne du jour, Roxane Varza, la patronne de la Station F, le plus grand campus de start-up au monde, Emmanuel.
Roxane Varza, une petite question peut-être un peu plus perso. Vous êtes adepte de la réservation en ligne pour le restaurant ou de la livraison à domicile de nourriture ou de plats venant du restaurant?
Je suis complètement fan.
Bon, du coup, comme sûrement beaucoup d'auditeurs et comme Elisabeth, ce qui vient va vous intéresser.
Avec vous, Xavier Zitoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG cofondateur de Zenchef. Zenchef, c'est un service complet pour les restaurants pour gérer la réservation d'une table ou encore le click and collect. Hein. On commande et on se fait livrer. Le but, c'est d'apporter une solution numérique aux restaurants qui n'ont par exemple pas de site internet.
Oui, tout à fait. Entre autres, on peut s'installer sur un site existant et on peut également créer les sites des restaurants. Le plus important, c'est que le module de réservation, donc pour le consommateur, soit disponible sur le site du restaurant. En fait, quand vous réservez dans un hôtel, soit vous allez passer par une plateforme de réservation, type Booking, Expedia, soit vous allez passer par le site du restaurant.
De l'hôtel, s'il en a un.
Le site de l'hôtel, pardon. Et c'est ce qu'on appelle la réservation en direct. Et donc, en tant que consommateur, c'est même une démarche responsable parce qu'on va éviter à l'hôtelier de payer une commission qui peut aller jusqu'à 30%
à la plateforme.
Du chiffre d'affaires à la plateforme. Et donc, nous, ce qu'on essaye, c'est de favoriser l'indépendance des restaurateurs en mettant en place cette plateforme qui favorise donc la réservation en direct, sans commission et sans intermédiaire.
Est-ce que du coup, pendant le Covid, vous avez eu beaucoup de demandes de restaurants qui n'étaient pas du tout préparés à faire, par exemple, de la livraison à domicile ou ce genre de choses et qui ont eu besoin de ce genre de service parce qu'ils avaient à peine un site internet qui allait au-delà que donner les heures d'ouverture?
Bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant la fermeture des restaurants, depuis le mois de mars jusqu'au 2 juin, le seul moyen de communiquer avec les clients qu'ont eu les restaurateurs, c'était par le digital, par les réseaux sociaux. Et donc, ils ont vraiment pris conscience qu'il fallait développer cette communication, il fallait mettre en place la livraison, la réservation en ligne. Et donc, oui, on a eu énormément de demandes. Et depuis le 2 juin, on n'a jamais reçu autant de demandes. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des restaurateurs de l'importance du digital pendant cette période.
Quand vous dites énormément de demandes, vous affichez une hausse de combien? combien par rapport à d'habitude ?
C'est deux fois plus important par rapport à avant le confinement.
Alors, vous faites partie de ceux donc, qui vont bien, hein, malgré la crise, on vous
mais
entend.
C'est le but
et
de la
bravo,
France Bonjour d'Embête, tous les jours à l'antenne, il y en a beaucoup en France
et
encore.
Ouais, et on est ravis de vous entendre. Ce sont aujourd'hui les restaurateurs qui viennent à vous ?
Oui, en très très grande majorité, on fait quasiment plus de prospection. Vraiment, c'est... je pense qu'on a gagné plusieurs années en trois mois en termes de prise de conscience. La restauration, c'est une industrie qui fonctionne encore beaucoup à l'ancienne. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ne se sentaient pas concernés par le digital, qui n'avaient pas pris conscience de ça. Et là, depuis trois mois, ça a changé parce que, encore une fois, ils devaient communiquer avec leurs clients pour maintenir un lien. Ils ont eux-mêmes utilisé beaucoup plus d'Internet, puisque ça peut paraître bête, mais un restaurateur, c'est dans son restaurant, c'est en cuisine, c'est avec les clients, donc ils ne sont pas très souvent devant des écrans. Bah là, par la force des choses, ils ont dû passer du temps devant des écrans. Et donc tout ça, ça a contribué à faire que, pour leurs propres établissements, ils adoptent le digital.
Vous êtes une sorte de vigie, hein, du coup, quasiment de la santé des restaurants, puisque vous voyez très bien les réservations et ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'on revient à peu près à la normale, ou au contraire, vous avez un paquet de vos clients qui vous disent bah, « Votre abonnement, je ne pourrais pas vous le payer parce que j'ai plus de sous, j'y arrive pas ».
Alors, le secteur vit une crise très importante. Maintenant, il y a de grandes disparités entre les restaurants selon là où ils se situent, selon s'ils ont une terrasse. Donc, il y a des restaurants cet été qui ont fait la meilleure saison de leur vie. Et donc, pour qui ça va très bien. Et pour d'autres, ils ont déjà fait faillite ou alors ils sont en train de faire faillite. Donc, on ne peut pas regarder la moyenne du secteur. Nous, ce qu'on voit, c'est des extrêmes.
Et qu'est-ce qui marche le mieux ?
Les stations balnéaires cet été ont fait le plein, évidemment. Donc, les restaurants en terrasse, au bord de la mer, ont été complets. Ils ont fait parfois deux fois la saison précédente. Les restaurants à Paris, qui ont été désertés à partir du mois de juillet par les Parisiens et qui n'ont pas eu ni de touristes ni de clientèle d'affaires, ont beaucoup plus de difficultés. Donc, ouais, y a des grandes différences.
Je suis sûr qu'il y a pas mal d'auditeurs qui nous écoutent à la maison ou en voiture là, qui disent « je comprends pas, moi j'utilise la fourchette, The Fork maintenant pour ceux qui ont mis à jour leurs applications sur leur téléphone ». Vous êtes concurrent, vous êtes complémentaire ou vous êtes français et vous dites aux restaurateurs qui nous écoutent « choisissez-nous ».
Non, alors on a des offres qui peuvent être complémentaires. Nous, on n'est pas une plateforme qui s'adresse au grand public. On est un outil digital, une plateforme pour le restaurateur. Donc, on se concentre sur le restaurateur. Ce que fait aussi cette plateforme...
vous ne pouvez pas citer.
C'est pas possible.
la principale différence et l'approche, c'est que vraiment, nous, on souhaite que le restaurateur crée son propre canal de réservation et donc et un maximum de réservations qui passent en direct, sans commission, sans intermédiaire, qui restent propriétaires de leurs données clients, qui puissent ensuite fidéliser. Donc c'est vraiment une approche qui est différente, mais les deux peuvent être vraiment complémentaires. L'important, c'est que les restaurateurs adoptent ce type de solution parce que c'est vraiment utile pour eux, pour gagner des clients et pour gagner du temps dans le quotidien.
Vous voulez favoriser leur indépendance, hein, c'est ce qui est important. Roxane Varza, notre grande patronne du jour, la digitalisation des restaurants s'accélère. Hein, Xavier Zetoun de Zen Chef vient de nous le dire. Dans quel autre domaine vous assistez-vous aussi à la station EF, à la même accélération? Y a-t-il des domaines, des start-up qui là sont en croissance exponentielle?
Je pense qu'il y en a dans quasiment tous les secteurs. On commence à voir vraiment des choses qui explosent. Là, tout à l'heure, quand on parlait de Covid, je pense qu'un des secteurs qui était le plus impacté est l'événementiel. Plus d'événements physiques, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas besoin de se voir, pas envie de se parler. Et donc, il y a maintenant des plateformes qui se créent pour faire des événements à distance. On a même une start-up chez nous qui commence à faire des team building à distance pour les entreprises qui souhaitent aider les salariés à se revoir alors que tout se passe maintenant à la maison. Donc voilà, on commence à voir des secteurs qui se recréent complètement.
Vous parlez de l'événementiel. Hein, vous êtes installé dans l'ancienne Alfraissinet à Paris, qui est un bâtiment magnifique dans le 13e arrondissement. Et l'une de vos sources de financement, c'était justement les événements. Vous louiez l'espace et vous faisiez vous-même de grands congrès, salons et autres. C'est terminé tout ça pour le moment. Quand on est financé en grande partie par ça, alors certes vous avez un milliardaire derrière vous, hein, parce que c'est Xavier Niel qui a lancé le projet, mais je pense qu'il est comme tout le monde, il n'a pas envie de vous financer à Vita Meternam.
Non, ça se passe comme
on
ça.
Fait comment du coup?
On était très impacté sur l'événementiel, évidemment avec toutes les règles de confinement, de déconfinement même, parce que les événements c'était un peu comme les restaurants, ça revenait pas tout de suite. Là on commence à voir en termes de fréquentation à Station F, ça revient à la normale là, à la rentrée. et je pense que les événements un peu progressivement d'ici la fin de l'année. Donc non, c'est pas du tout fini, mais je pense qu'on va...
Mais vous-même, vous pensez à vous réinventer, vous parlez là de ces solutions, à faire des événements totalement différents?
Exactement. Bah, nous, en fait, tout le monde part d'un modèle qui s'appelle le modèle hybride. Il y a une partie qui se passe sur place, une partie en ligne, et je pense que dans l'événementiel, c'est exactement la même chose qui va se passer.
Merci en tout cas Xavier Zetoun, PDG, cofondateur de ZenChef, d'être venu nous parler de votre activité et surtout de préserver l'indépendance des restaurants.
Europe 1. Et il est 13h27, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur Europe 1. Ils étaient les seuls Français dans les années 80 face aux Américains, notamment d'IBM. Bull partageait le gâteau des géants de l'informatique. C'est comme ça qu'on appelait la tech hein, il y a 40 ans.
Et Bull, c'est notre saga du jour. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
On est très heureux avec Elisabeth d'être avec vous chaque jour sur l'antenne d'Europe 1 entre 13h et 14h pour cette station F. Très heureux aussi d'accueillir aujourd'hui Roxane Varza, la patronne de la station F, le plus gros endroit de start-up au monde. On le dit pas assez souvent que parfois on a des numéros 1 en France. Alors derrière ce numéro 1, Xavier Niel, on le disait tout à l'heure, un fondateur de Free. Xavier Niel répète à l'envi que la France est un Eldorado pour les start-up, grosso modo qu'il n'y a pas de meilleur pays pour investir. C'est vrai aussi quand vous le voyez vraiment au quotidien. Et en quoi, si c'est vrai, c'est vraiment un Eldorado?
Complètement d'accord. Et je pense aussi que la France a fait énormément de progrès ces dernières années. Et pareil, on ne le dit pas assez. On a vu des changements au niveau du financement. La France a... Je vais utiliser tous les chiffres avant le Covid parce qu'on n'a pas des chiffres depuis le Covid. Mais la France était numéro un en termes d'investissement, en termes de pas de montant, de volume, mais nombre de
projets qui...
Donc ça veut dire que pour une jeune startup qui démarre, il y a plus de chances à trouver de l'argent ici en France qu'ailleurs. Et aussi en termes d'ingénieurs, de qualité d'ingénieurs, on a vraiment des personnes bien formées en France. Je pense que les ingénieurs français sont mondialement connus. Et donc aujourd'hui, il y a même des entreprises de la Silicon Valley qui commencent à chercher des équipes ici en France.
Et même des patrons de la Silicon Valley qui sont arrivés ici. Je crois que le patron de Snapchat s'est installé à Paris, justement, bien aiguillé par Xavier Niel.
Alors vous dites qu'il y a plus de chances en France de trouver des financements pour démarrer. Mais le problème aussi en France, c'est qu'une fois qu'on a démarré, il faut grossir et c'est beaucoup plus difficile. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Ça c'est quelque chose, je pense ça vient avec la maturité de l'écosystème et je pense qu'il faut tout simplement se rendre compte aussi que notre écosystème n'a pas la même maturité qu'un écosystème comparable aux États-Unis. Aujourd'hui on a des startups qui sont là depuis, qui se développent depuis, ça commence à faire 10 ans pour certaines startups, qui commencent à faire des tours de table, on parle de late stage mais ça veut dire que c'est plus le capital de développement, mais en fait ces problèmes c'est pas du tout un problème qui est spécifique à la France, c'est quelque chose qui touche pas mal de pays en Europe, tout simplement parce que notre écosystème est moins mature.
Il est moins mature. Est-ce que vous craignez qu'après le Covid, les financements se ferment? On sait qu'en période de crise, selon on a le plus de difficultés à financer, c'est le risque. Par définition, une start-up, quand elle se lance ou quand elle grossit, elle est extrêmement risquée. Est-ce que vous pensez que ça y est, c'est fini? Hop, robinet.
Du tout. En fait, comme tout le reste, les investisseurs aussi se sont réinventés. Donc, il y a des levées de fonds qui se sont faites à distance, alors que normalement, c'est un métier où il faut vraiment voir des gens, se rencontrer, voir les équipes et tout ça. Et on a entendu plein d'histoires des investisseurs que pour la toute première fois, ils ont tout fait à distance. Et je pense que quelque chose qui va peut-être continuer sur la durée. Il y a aussi beaucoup de startups qui ont pu profiter des aides et dont ils ont réussi à décaler la levée de fonds. Peut-être maintenant, à la rentrée, on va commencer à revoir quelque chose beaucoup plus intéressant au niveau des levées de fonds.
Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir enfin réussir, nous aussi, à trouver le Microsoft de demain ?
Complètement, mais je pense qu'il y a déjà... moi, je suis convaincue qu'il ne faut pas essayer de recréer des GAFA. On est obsédés par les Facebook, les Google et compagnie. Moi, je pense que la France, on a déjà des entreprises qui sont incroyables sur d'autres sujets.
Lesquelles ?
Je pense qu'on a énormément de choses qui se passent dans la biotech, dans la médecine, dans la SaaS. Et en fait, on n'est pas à aller concurrencer des acteurs qui sont déjà bien installés ailleurs.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve les sillons dans lesquels s'inscrire et ne pas se disperser et aller véritablement là-dedans.
Exactement.
Mais typiquement, vous, du côté de la station F, c'est-à-dire que ça va vous obliger à revoir vos processus de sélection et à se dire, ne nous dispersons pas. Si on veut être bon, il faut aller, par exemple, dans le médicament, ce que vous dites, dans les biotech, et à recentrer vos recrutements.
C'est déjà la façon dans laquelle on travaille. Donc, nous, on a des différents programmes à Station F qui sont souvent par secteur ou par spécificité. Et donc là, par exemple, on a un programme pour la medtech, pour fintech, pour plein de différents secteurs. Mais je pense qu'on va regarder vraiment là où c'est potentiellement le plus intéressant et mettre encore plus d'efforts derrière ces programmes.
Allez, on continue à parler de la tech aujourd'hui hein, sur Europe 1, Emmanuel. Aujourd'hui, on va un petit peu se revenir quelques années en arrière avec notre saga du jour. Bull, c'est la plus longue aventure de l'informatique en France. Alors certes, Bull a été racheté par Atos.
Pour une fois que ce n'est pas un Américain, au moins déjà c'est par un Français.
C'est vrai, c'est important de le souligner. Mais ça fait partie de ces marques que l'on connaît tous. Hein. Aujourd'hui, Bull, ce sont des offres en matière de supercalculateurs, de big data et de sécurité.
Tiens justement, Elisabeth, nos auditeurs, vous ici en studio, si je vous dis ça vous évoque quoi Bull ? Eh bien Charlotte Barrican est allée dans le quartier de la Défense à Paris promener son micro justement pour poser cette question.
Alors si je vous dis Bull, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Bull spéculative, Bull l'entreprise, Bull de savon.
Bien joué, oui, les ordinateurs. Mais chez nous, on n'est pas trop Bull.
Pour moi, ça évoque une vieille société d'ordinateurs.
Pour moi, c'était la tour Bull. Anciennement, il y avait la tour Bull qui s'est construite la première. Et maintenant, c'est le ministère de l'écologie.
Ça me rappelle des vieux souvenirs, ça, Bull. C'était une marque d'ordinateur, non ? Il y a très longtemps.
Ça existe encore ? Ah bah, vous voyez, vous me l'apprenez.
Il y a 30 ans, j'ai travaillé sur du Bull, oui. On a fini par faire de l'IBM et on a eu du Bull il y a très très longtemps.
C'est très possible qu'ils aient eu des ordinateurs Bull, mes parents à l'époque, mais c'est possible.
Dans le milieu du travail, c'est très certainement, oui. Mais il faut remonter aux années 70-80. Il y a plein de choses qu'on a connues et que vous ne connaissez pas. Ouais, c'est rattaché aux générations, c'est un peu normal.
Je vous vois sourire. Bonjour
oui,
Sophie Proust.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la technologie chez Atos. Vous avez fait une partie de votre carrière chez Bull, hein, 25 ans, 25 années, juste après votre école d'ingénieur. Je vous voyais sourire, même rire en écoutant ce micro-trottoir de Charlotte Barrican. Ça vous inspire quoi ?
Mais je pense qu'en fait, Bull est effectivement une marque très très connue hein, en France, parce qu'en fait, on a été pionniers, hein, on a vraiment été visionnaires et on a marqué l'histoire de l'informatique. Aujourd'hui, comme on le dit, ça continue avec Atos, mais en fait, cette aventure, elle a commencé en 1931, hein, quand la société a été créée. La société a créé la première tabulatrice. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une tabulatrice ? C'est juste une machine qui fait des additions, des soustractions, des multiplications. Ça fait un peu sourire aujourd'hui, parce que c'est des calculatrices, on a tout ça dans notre poche. Mais à l'époque, c'était une machine sur laquelle on écrivait des programmes sur des cartes perforées et qui étaient traitées et à une vitesse de 100 cartes par minute. Alors après, évidemment, l'électronique est arrivée dans les années 40. En 1960, on a créé le premier ordinateur dit multitâche, c'est-à-dire l'ordinateur qui était capable de lancer des programmes en parallèle. Mmh. Et puis, vous voyez, ça reste dans la mémoire collective, mais 50 ans plus tard, la France et Bull a créé le premier supercalculateur premier en Europe, hein, avec une capacité de calcul d'un pétaflop, c'est-à-dire 1 million de milliards d'opérations par seconde.
Une puissance de géant.
Ce qui est impressionnant, quand on regarde les années 60, 15 000 salariés, je crois, à l'époque, chez Bull. Mmh. Et fin des années 60, le général de Gaulle qui lance le plan calcul. Ouais. Et à ce moment-là, on se dit qu'on est les rois du pétrole.
On est les droits du pétrole. On avait énormément, effectivement, d'avantages et de capacités à créer toute la structure informatique. On s'est énormément diversifié aussi, puisqu'on a été sur les aspects de cybersécurité. Donc, on n'est pas resté que sur les ordinateurs. Ça reste un petit peu en mémoire, puisqu'en fait, chacun a... Par exemple, les instituts de sondage, hein, c'est le Honeywell Bull qui donnait des sondages.
Bull, oui, on
voilà,
s'en souvient.
Absolument. Et tout ça, c'était basé sur des machines Bull. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le quotidien, c'est toujours le cas. Si vous êtes à la sécurité sociale, eh bien, les traitements sont traités sur des machines Bull.
Alors ça, certains vont peut-être se dire que ce serait bien que ça aille plus vite. Mais...
en tous les cas, les calculs sont justes en général. Et puis, prenez aussi les cartes de paiement. Hein. La carte à puce, en fait, a été inventée par Bull. Et aujourd'hui, quand on regarde la météo, quand on... Il y a tout un tas...
Vous avez, que ce soit autour de la sécurité informatique, là, vous nous parlez des cartes à puce, dans le secteur bancaire, vous avez lancé une véritable révolution de la micro-informatique. Hein. Oui. C'est comme ça qu'on l'a nommée à l'époque. Aujourd'hui, le groupe s'est renforcé au fil des années, puisque dans les années 2000, il y a eu une participation participation de Saint-Gobain dans Bulle, puis après une nationalisation. Mmh. Comment vous avez vécu tout ça et que reste-t-il des premières années de Bulle ?
Ouais. Alors effectivement, hein, l'histoire de Bulle, quand on la regarde, elle a été assez mouvementée. Hein. Il y a eu beaucoup de propriétaires qui se sont succédés. Moi, la vision que j'en ai pour être rentrée effectivement dans cette entreprise en 89, c'est une excellence technologique. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des ingénieurs, la qualité des ingénieurs français, mais je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire des gens passionnés, des gens très pointus techniquement, qui avaient la vocation à transmettre leur savoir et qui voulaient toujours innover. Et donc, c'est ça l'image que j'en garde.
Malgré tout, aujourd'hui, alors pardonnez-moi le mot que je vais peut-être utiliser, vous étiez le grand concurrent d'IBM. IBM est encore leader mondial dans ses marchés aujourd'hui. Bulle n'existe quasiment plus sur le marché, en tout cas a perdu la bataille. Et c'est une excellente leçon pour l'avenir. Qu'est-ce qui a manqué à Bulle pour être ce leader mondial ? À l'époque d'IBM, au début de la guerre, Bulle avait les moyens d'y arriver.
Alors, je ne dirais pas qu'on a perdu la bataille, puisqu'au contraire, nous sommes fait racheter. Alors, c'est possible, hein, c'est la concurrence mondiale. Nous sommes aujourd'hui, vous savez, numéro un dans les supercalculateurs en Europe. Nous sommes numéro un en cybersécurité. Et nous avons été rachetés par Atos, qui continue
en 2014.
Fait, voilà, en 2014, qui continue à innover autour de ces technologies du numérique.
Roxane Varza, notre grande patronne du jour, patronne de la station F, des histoires comme Bulle. Est-ce que, selon vous, vous voyez des tonnes de start-up toute la journée ? Est-ce que c'est possible en France en 2020 ?
Complètement. Je pense que là, c'est intéressant parce qu'on parle d'une success story, un rachat d'entreprise. Et quand on parle de rachat dans l'écosystème startup, on a l'impression tout de suite que c'est forcément un succès.
Ouais.
Une acquisition, un rachat d'entreprise. Et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Et je pense qu'il y a des entreprises qui peuvent être vendues trop tôt, trop jeunes. Parfois, un rachat peut mal se passer. On ne peut pas intégrer la technologie. Là, tout ce qu'on a entendu, c'est qu'en fait, Bulle, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté avec le rachat. Donc, je pense qu'il faut juste relativiser un peu. Rachat, ça ne va pas forcément dire un succès. Et ça, c'est complètement possible. Mais aussi, on n'encourage pas assez nos startups à se développer avant de se faire racheter.
Eh bien, on va suivre tout ça. Un grand merci, Sophie Proust. C'était tout simplement passionnant. J'avais envie de vous le dire. Vous êtes venue nous raconter l'histoire de Bulle. Et je rappelle qu'aujourd'hui, vous êtes la directrice de la technologie chez Atos.
Europe 1, il est 13h41. Roxane Varza, vous restez avec vous. Vous êtes avec nous. Vous êtes notre grande patronne du jour. C'est la fin de notre dossier du jour, Emmanuel. Place dans un instant au pitch et à notre vie au travail.
Avec les trophées Europe 1, un projet de pitch, un moment que vous attendez. C'est une des promesses de votre émission, découvrir ceux qui agissent et qui construisent avec tous nos invités le monde de demain. Restez avec nous.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutheil.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h dans La France bouge avec notre grande patronne du jour, Roxane Varza, patronne de la station F, l'un des plus grands campus de start-up au monde, installé à Paris. Roxane, vous êtes prête ?
Oui,
parce
bien
que
sûr.
Maintenant, vous avez l'habitude de voir des jeunes entrepreneurs. Eh bien, ça tombe bien parce que nous, on a trouvé Pile ou Face. Pile ou Face, c'est une marque de chaussettes dépareillées qui est née il y a à peine 2 mois.
Bonjour, Bastien Ulzini.
Bonjour.
Merci à vous aussi d'être venu comme ça dans la France bouche sur Europe 1. Vous venez donc de fonder avec votre frère jumeau Antonin votre start-up donc de chaussettes. Ça s'appelle Pile ou Face. C'est une marque de chaussettes dépareillées. Alors, on va se poser la question, pourquoi les chaussettes ? Quel est votre modèle économique dans un secteur quand même très très concurrentiel, et pour ça vous connaissez la règle, vous avez 1 minute 30, pas une seconde de plus, pour convaincre notre grande patronne, les auditeurs par million partout en France, et Elisabeth et moi. Allez, en route.
Donc alors, comme vous venez de le dire Emmanuel, Pile ou Face c'est l'histoire d'une paire de chaussettes, oui, mais avant tout c'est l'histoire d'une paire de jumeaux. Donc je vous dis ça parce que c'est créé avec mon frère jumeau Antonin, comme vous venez de le dire. Et donc nous sommes lancés dans les paires de chaussettes dépareillées. Pourquoi le dépareiller ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, deux chaussettes sont très souvent identiques. On connaît tous nos paires de chaussettes noires, nos paires de chaussettes grises, bleues, qu'on porte quotidiennement. Et justement, l'idée de Pile ou Face, c'était d'innover et d'ajouter une valeur ajoutée à un produit qui était trop souvent oublié, donc les chaussettes. Et c'est pourquoi, donc, en référence avec notre gémellité, on a créé Pile ou Face pour apporter un détail, justement, pile et face. Donc, chaque chaussette a sa propre identité. Donc, alors, on est parti d'un constat simple. Aujourd'hui, finalement, toutes nos chaussettes sont fabriquées à l'autre bout du monde, ne respectant pour la plupart ni les conditions de travail des employés, ni les normes environnementales. Donc, partant de ce principe-là, c'était vraiment flagrant pour nous de produire en France. C'est pourquoi nous avons sélectionné l'une des dernières bonneteries françaises, donc basée à Limoges. qui s'appelle Brousse au textile, avec qui on a créé voilà, divers modèles que j'ai justement ici. Donc on a créé une collection de 12 modèles. 12 modèles, 7 modèles pour les hommes et 5 modèles pour les femmes, pour le moment, puisque nous souhaitons bien sûr développer notre gamme de produits. Et c'est, voilà, ça va dépendre en fonction de notre crowdfunding, puisque nous sommes actuellement sur la plateforme Ulule, sur laquelle nous avons déjà réalisé en moins de 3 semaines plus de 450% de notre objectif. Donc voilà, il reste seulement 9 jours pour contribuer, nous aider simplement sortir de nouveaux modèles.
La minute 30 est passée, ça va mieux ?
Très très bien. Très bon.
Non mais c'était bien, hein. Et puis pour ceux qui n'ont pas pu retenir, hein, en pleine campagne Ulule jusqu'au 15 septembre,
exactement.
Hein, c'est vachement important. Alors Roxane Varza, première réaction face au pitch.
J'avais envie de poser des questions difficiles, ouais. Mais déjà j'adore le concept.
Merci beaucoup.
Et c'est la première fois que je vois des jumeaux qui montent une entreprise ensemble, donc ça c'est pour moi... quelque chose que j'ai jamais vu.
Alors au niveau
du concept, du business,
est-ce que c'est viable pour vous?
Complètement, je trouve ça super intéressant parce que les chaussettes, c'est quelque chose en effet qui a besoin d'être réinventé complètement, mais en même temps je pense aussi que c'est un produit qui est assez facile à vendre à distance, contrairement à d'autres vêtements, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'essayages, on comprend de quoi il s'agit.
Bien sûr, puisque voilà, au jour d'aujourd'hui, si je vous pose la question, vous connaissez tous votre pointure. Ce n'est pas forcément le cas d'un t-shirt qu'on peut essayer où on peut être entre deux tailles. La paire de chaussettes, pour nous, c'était vraiment un accessoire vraiment vraiment type, voilà, on pouvait vraiment voilà, on connaît nos pointures et c'est facile, pas forcément de retour ni de SAV à gérer aussi, donc pour nous au départ c'est surtout un bon avantage.
Moi j'avais une question, le départ ayant, on comprend très bien quand vous expliquez la question de la gémilité du pile ou face, mais comment le client quand il arrive devant pile ou face, il sait finalement votre histoire et ce qui fait l'ADN de votre marque?
Alors finalement regardez, je vous montre les chaussettes, vous avez une chaussette pile et une chaussette face. Et c'est simplement voilà, ce petit détail-là, cette valeur ajoutée-là qui va justement faire comprendre aux consommateurs que les chaussettes dépareillées, ça fait référence justement à la gémilité.
Vous avez déjà une communauté pour pouvoir vous suivre? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Parce que je parle sous le contrôle de Roxane Varza, mais c'est quand même très important quand on démarre un projet qui est quand même une communauté déjà établie.
Bien sûr, bien sûr. Alors à savoir que pour déjà créer nos modèles, on les a déjà créés avec notre communauté.
Laquelle? C'est où? C'est sur Facebook, sur Twitter?
Sur Instagram principalement, mais également avec notre communauté, on essaye de créer un petit cercle, un noyau.
Vous dessinez vous-même, hein.
On dessine nous-mêmes pour le moment, vous voyez, on est sur des modèles assez simplistes pour le moment. On va tendre bien sûr à développer cette collection-là en fonction encore une fois des résultats du crowdfunding, mais oui, nous dessinons les modèles nous-mêmes.
Alors vous êtes tout jeune, mais c'est compliqué de travailler avec son frère jumeau, c'est...
Pas du tout, puisqu'on est, on est totalement complémentaires l'un de l'autre. Vous voyez, on est plus sur la partie des partenariats, notamment pour ne pas les citer, Ecoréseau Business, Birchbox, 3x20 ou même encore Combat de Coq, avec qui nous sommes associés pour cette campagne de crowdfunding, donc qui nous soutiennent dans ce projet.
Vous êtes déjà un petit peu connu dans tout cet écosystème alors?
Alors connu, c'est un grand mot, mais voilà, c'est vrai qu'on a réussi à dénicher de beaux partenariats pour cette campagne de crowdfunding. Oui.
Roxane Varza, vous validez?
Oui, je valide complètement. Moi, j'ai une dernière question, c'est juste quelle est la mission, quel est le rêve avec cette entreprise?
Alors, où est-ce qu'on veut aller?
Exactement.
Le futur de l'entreprise?
Exactement.
Et bien tout simplement, on aimerait voilà, vraiment révolutionner le monde de la chaussette, principalement au départ, mais surtout après s'étendre sur d'autres produits. Alors, je vais garder pour nous et surtout pour notre communauté au début... Le secret, mais bien entendu, suivez-nous aussi sur nos réseaux sociaux, hein, vous en saurez davantage sur Pile ou Face.
Vous allez voir, en sortant de ce studio, vous aurez des millions de personnes à vous suivre donc sur Pile ou Face. Merci beaucoup Antonin pour le pitch. Si vous aussi vous avez un projet, si vous avez une envie de tester ce projet en direct sur Europe 1 devant une grande patronne ou un grand patron, parfois on laisse quand même la place aux hommes, c'est très simple, il suffit de nous écrire sur notre boîte mail e1-lafrancebouge@europe1.fr.
Europe 1. Vous êtes sur Europe 1, il est 13h50. On reste ensemble dans un instant. Ma vie au travail.
Ma vie au travail, dernier rendez-vous de l'émission. Décryptage justement sur nos nouvelles façons de travailler.
Aujourd'hui, des bureaux modulables dans une agence de voyage. On découvre cette nouvelle façon de travailler dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
La France bouge, dernière partie de votre émission avec Ma vie au travail. Nous sommes toujours avec notre grande patronne du jour, Roxane Varza, patronne de la Station F.
Et maintenant Elisabeth, c'est le moment de découvrir comment certaines entreprises construisent justement le monde du travail de demain. Aujourd'hui, nos équipes nous ont déniché des bureaux modulables. Bonjour Axel Guidicelli.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous dans la France Bouge. Vous êtes le patron d'Ulysse. Ulysse, c'est une agence de voyage en ligne. Alors, chez vous, je crois qu'il y avait déjà une culture du télétravail qui était assez forte et vous proposez à vos collaborateurs des bureaux modulables. Pour qu'on comprenne bien, ça fonctionne comment et ça ressemble à quoi? Vous êtes nos yeux pour tout nous raconter.
D'accord, pas de souci. Alors, pour remettre les choses dans leur contexte, effectivement, Ulysse, c'est une solution, c'est une plateforme sans publicité avec un service client de haute qualité. Et on a d'ailleurs été désigné comme solution la mieux notée en Europe grâce à notre gestion du Covid. Et je pense personnellement que ça a été possible grâce à tout ce qu'on a mis en place auprès de nos salariés et notamment Sline.
Donc Sline, ce sont les bureaux.
Effectivement. Du point de vue de l'entreprise, ça a beaucoup d'avantages. Au niveau du prix, déjà, c'est totalement indolore pour nous financièrement, car le collaborateur qui va partir télétravailler totalement dans une autre ville, bah, c'est quelqu'un à qui on va pas payer un pass Navigo, par exemple. Donc, les 39 euros par mois de location, on va même pas les ressentir. Puis, c'est aussi une solution qui était hyper flexible pour nous, parce que c'est une solution de location sans engagement, qui est garantie à vie.
Alors, on l'entend du point de vue financier, c'est très avantageux pour vous en tant qu'entrepreneur. Comment est ce bureau si moi, demain, je vais travailler chez vous? Comment et à quoi ressemble le bureau modulable et transportable?
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un bureau hyper design, donc très joli, mais aussi hyper modulable. Donc, on peut le transformer très facilement en petite console, par exemple, lorsqu'on a fini sa journée. C'est hyper pratique lorsqu'on vit dans des lieux de vie assez limité en superficie. Et c'est aussi quelque chose qui a été réfléchi de manière hyper économique, donc très bon pour la santé des salariés. Et le dernier point dont moi je suis fan pour les salariés qui sont en télétravail, c'est les tréteaux électrifiés. Donc en fait, ce qui permet de pouvoir travailler même au fond de son jardin si on en a envie et qu'il fait beau. Et ça, c'est un des points qui nous a convaincus.
De ce qu'on entend, le point le plus important pour vous, c'est que même ceux qui, du coup, vivent dans de petites surfaces, grâce à ce genre de bureau, grosso modo, le soir, on oublie qu'on est au travail, on transforme ça en chaise haute et en table haute pour dîner avec la famille, par exemple, ou avec des copains.
Exactement. Bah, je pense qu'on s'est tous rendu compte avec le confinement qu'il était hyper important d'avoir une séparation entre la vie privée et la vie pro, chose qui a été compliquée pendant cette période-là. Et c'est ce que Sline permet, en fait, finalement, c'est d'avoir un espace hyper adapté pendant le moment où on travaille et de pouvoir cet espace-là le déplacer, en faire, bah, comme je vous l'ai dit, une console ou même le ranger tout simplement et le ressortir le lendemain au moment de travailler.
Roxane Varza, des bureaux modulables à la station F, c'est quelque chose que vous pourriez envisager?
Je trouve ça fascinant. Bah, évidemment, nous, on est sur un espace avec beaucoup de personnes. On a essayé aussi d'avoir des formats modulables, adaptables pour toutes les différentes entreprises parce que tout le monde ne travaille pas forcément de la même façon. Ce que j'ai entendu là, c'est ça intégrer beaucoup d'éléments qui permettraient vraiment de travailler dans plein de différents contextes à l'extérieur. J'avais peur au début que ça soit quelque chose où il fallait, je ne sais pas, le mettre sur roulette et le transporter chez soi à la maison. Je ne trouvais ça pas super, super bien. Mais là, ce qui a été décrit, ça m'a l'air vraiment, vraiment très intéressant. Et finalement, je pense que chaque patron ou patronne a juste envie que ses salariés se sentent bien là où ils travaillent. Donc, je pense que ça répond parfaitement à la question.
Voilà, et nous, chaque jour, hein, dans Demain au travail, on vous raconte comment nos entreprises sont en train de se transformer là, en ce moment, en pleine crise, en plein changement. Merci à vous, Axel Guidicelli. Vous êtes le patron de cette agence de voyage de Ulysse, qui a proposé donc des bureaux modulables pour vos salariés en télétravail. Merci à vous.
Et ça passe chaque jour trop vite, mais malheureusement, c'est déjà la fin
déjà
de votre émission. Bah oui, c'est déjà fini. Merci à vous, Roxane Varza,
Merci.
Patronne de la station F, d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur Europe 1.
Et on se retrouve demain à 13h pour une nouvelle France Bouge. Tiens, on va parler de quoi demain, Emmanuel?
Eh bien, on va aller faire nos courses. On ira notamment du côté de la Biocoop, le leader du bio en France. Est-ce qu'ils vont le rester alors que les grands noms de la grande distribution arrivent? Qu'est-ce qu'on achète en masse là-bas? On se posera la question. Très très bonne journée à tous sur l'antenne d'Europe 1.
Rendez-vous demain à 13h et dans un instant, Christophe Ondelat.